VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Abidjan, 13h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. Au Japon, le président des États-Unis, Barack Obama, a rendu aujourd'hui un hommage ému aux victimes de la première attaque nucléaire de l'histoire lors d'une visite historique à Hiroshima, serrant la main et prenant dans ses bras des survivants de la bombe atomique. Le chef de l'exécutif américain a saisi l'occasion de cette première visite d'un président des États-Unis en exercice dans cette ville anéantie le 6 août 1945 par une bombe nucléaire américaine pour appeler à un monde sans armes nucléaires. Par ailleurs, les dirigeants du G7, États-Unis, France, Grande-Bretagne, Italie, Allemagne, Canada et Japon, ont fait ce matin de la croissance mondiale leur priorité urgente à l'issue d'un sommet de 2 jours au Japon. Les précisions de Michel Joseph.
Dans leur déclaration finale, les chefs d'État ou de gouvernement des 7 pays industrialisés ont déclaré que la croissance mondiale reste modérée et en dessous de son potentiel, tandis que persistent les risques d'une croissance faible. Ils ont ainsi réitéré leur engagement à utiliser tous les outils de politique économique, monétaire, budgétaire et structurelle, individuellement et collectivement. Les leaders du G7 ont également averti qu'une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne à l'issue du référendum prévu le 23 juin serait un risque grave pour la croissance mondiale. Une telle sortie, ont-ils estimé, renverserait la tendance à une expansion du commerce mondial et de l'investissement, ainsi que des emplois qu'il crée. Par ailleurs, le G7 s'est dit préoccupé par l'aggravation des tensions maritimes en mer de Chine méridionale et orientale. Et ses dirigeants ont souligné l'importance fondamentale d'une gestion et d'un règlement pacifique des différends. Leur communiqué n'a cité aucun pays en particulier, mais les tensions se sont aggravées ces derniers temps en mer de Chine méridionale, revendiquée en quasi-totalité par Pékin, qui a construit des îles artificielles aux grandes dames de pays comme le Vietnam ou les Philippines. Pékin et Tokyo se disputent âprement la souveraineté de territoires inhabités en mer de Chine orientale.
En France, le parquet national financier a demandé le renvoi en procès du fils du président équato-guinéen Théodorine Obiang dans l'affaire dite des biens mal acquis. Le point avec Arzuma Compaoré.
Si les juges d'instruction suivent l'avis du parquet et décident du renvoi, pour la première fois, un procès se tiendra en France et même en Europe d'un haut dignitaire d'un des pays au cœur de l'enquête dite des biens mal acquis. Se sont félicités dans un communiqué les associations Sherpa et Transparency International France qui avaient déposé plainte en 2007 et 2008 dans ce dossier. Théodore Obiang a été mis en examen en mars 2014 par la justice française qui le soupçonne de s'être frauduleusement bâti un immense patrimoine en France. Celui-ci serait constitué notamment de voitures de luxe, d'un jet privé, d'un hôtel particulier à Paris, selon les instructions, des biens évalués à plusieurs centaines de millions d'euros. Le fils du président équato-guinéen avait demandé l'annulation de sa mise en examen, estimant que son statut de vice-président, chargé de la défense et de la sécurité de l'État en Guinée équatoriale, lui conférait l'immunité. La Cour de cassation l'avait débouté en décembre, estimant que les faits qui lui sont imputés avaient été commis à des fins personnelles.
Toujours en France, Didi, un Algérien de 35 ans, a été naturalisé français pour acte de bravoure lors des attentats du 13 novembre à Paris. Didi, qui travaillait comme responsable de la sécurité dans la salle de concert au Bataclan, a sauvé de nombreuses personnes ce jour-là. Perpétré par 3 commandos djihadistes, les attentats dans Paris et sa banlieue ont coûté la vie à 130 personnes, dont 90 tués au Bataclan. Et toujours concernant la France, les syndicats opposés au projet de loi du travail ont appelé à amplifier les mobilisations, manifestations et blocages qui se succèdent depuis plus de 2 mois dans le pays. Dans un communiqué publié dans la nuit de jeudi à vendredi, du Japon, où il participait au G7, le président français François Hollande leur a répondu qu'il tiendrait bon, parce que c'est une bonne réforme, dit-il.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Côte d'Ivoire, le conducteur d'un des véhicules ayant servi lors de l'attaque djihadiste qui a fait 19 morts le 13 mars à Grand Bassam, non loin d'Abidjan, a été arrêté et est en train d'être interrogé, selon un communiqué des sources sécuritaires ivoiriennes dont l'AFP a reçu copie. Aucun détail sur le lieu de son arrestation. Et toujours concernant la Côte d'Ivoire, la Cour suprême ivoirienne a rejeté le pourvoi en cassation de l'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo, rendant ainsi définitive sa condamnation à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Éric Manirakiza.
C'est son avocat, maître Rodrigue Dadjie, qui a annoncé hier ce rejet de la Cour suprême ivoirienne. Il a dénoncé une décision politique, estimant qu'il y avait assez d'arguments juridiques pour annuler la condamnation de sa cliente. Simone Gbagbo, incarcérée à Abidjan, a été condamnée le 10 mars 2015 à 20 ans de réclusion pour attentat à la sûreté de l'État. Elle était jugée avec 78 co-accusés pour leur rôle dans la crise post-électorale de 2010-2011, qui avait fait plus de 3000 morts en 5 mois. La défense de l'ex-première dame ivoirienne s'était alors pourvue en cassation, critiquant une procédure irrégulière qui devait être frappée de nullité. La haute cour ivoirienne a finalement rejeté ce recours. Par ailleurs, Mme Simone Gbagbo comparaîtra à partir du 31 mai à Abidjan devant les assises pour crimes contre l'humanité.
En Angola, 3 personnes ont été tuées dans les violences politiques entre partis rivaux à Koubal, dans l'est du pays, selon un nouveau bilan fourni par la police et le principal parti d'opposition joint ce vendredi. Dans un premier temps hier, le principal parti d'opposition, l'Unita, avait fait état de mort, un cadre du parti à Koubal, dans la commune de Kapupa. Mais lors d'une conférence de presse hier soir, la police a finalement avancé un bilan de 3 morts. Ce sont des conflits de caractère politique entre 2 partis rivaux qui se sont soldés par la mort de 3 personnes, a déclaré un porte-parole de la police, Carlos Mota, à Benguela. Et puis à Maurice, Pravind Jugnauth, chef de file du principal parti gouvernemental et fils du Premier ministre, a été investi aujourd'hui comme ministre des Finances après avoir été innocenté dans une affaire de conflit d'intérêts. Pravind Jugnauth, 54 ans, retrouve ainsi un poste qu'il avait déjà occupé entre 2003 et 2005, puis entre 2010 et 2011. Il a prêté serment jeudi devant la présidente de la République de Maurice, Amina Gorib Fakim, et intègre le gouvernement de son père, Sir Anirudh Jugnauth, Premier ministre de cet État de l'océan Indien. On passe maintenant à la course à la Maison Blanche ici aux États-Unis. Côté républicain, le milliardaire Donald Trump a franchi jeudi un cap historique dans sa quête de la Maison Blanche. Il dispose désormais de la majorité de délégués nécessaires pour l'investiture automatique du Parti républicain à la présidentielle de novembre. Chérubin Dorsil.
Donald Trump a passé la barre. C'est lui-même qui l'a annoncé lors d'une conférence de presse à Bismarck, dans le Dakota du Nord. Il a dépassé les 1237 délégués, une majorité qu'il était de toute façon assuré d'atteindre le 7 juin pendant les primaires républicaines dans plusieurs États, dont la Californie. Ce quasi-néophyte de la politique, âgé de 69 ans, a surmonté toute la concurrence d'au moins 16 autres candidats qui ont fini par jeter l'éponge. Sans concurrence depuis 3 semaines, il était de facto devenu le candidat officieux du parti pour la Maison-Blanche. Maintenant, M. Trump concentre sa puissance de feu sur Hillary Clinton, qu'il qualifie inlassablement de malhonnête. Mme Clinton ne devrait parvenir à l'investiture que le 7 juin, lors des scrutins démocrates de Californie et de 5 autres États. Bernie Sanders ne lâche pas et a même demandé un nouveau décompte dans le Kentucky, où Hillary Clinton l'avait emporté de justesse. Mais le résultat a été confirmé hier par les autorités locales.
Proche-Orient, le ministre israélien de l'Environnement, Avi Gabay, a démissionné aujourd'hui pour protester contre la prochaine entrée au gouvernement de l'ultranationaliste Avigdor Lieberman, nommé à la tête du ministère de la Défense. La démission de M. Gabay, membre du parti de centre-droit Kulanu, qui a qualifié le gouvernement remanié d'extrémiste, reflète les dissensions au sein du cabinet du Premier ministre Benjamin Netanyahu. Mais son départ n'aura pas d'impact sur la majorité parlementaire de la coalition de droite, M. Gabay n'étant pas lui-même député. Et puis en Turquie, le gouvernement turc prévoit de soumettre en juin au Parlement une révision de la Constitution qui permettra au président Recep Tayyip Erdogan de renforcer son autorité. Ce amendement s'inscrit dans le cadre d'un passage à un régime présidentiel qui n'est pas d'actualité pour l'heure, car l'opposition parlementaire y est très hostile. Monsieur Erdogan appelle de ses voeux une présidentialisation du système politique turc afin de rompre avec 9 décennies de tradition parlementaire. Et enfin, la lutte contre le groupe État islamique en Irak et en Syrie, l'effort soutenu par les États-Unis contre progresse dans leur offensive contre le groupe djihadiste. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.